Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Denis Siffer, éditorialiste à Politis. Bonsoir.
Bonsoir.
Denis Siffer, nous avons le plaisir de vous entendre chaque semaine sur Radio Orient. Avec ce format un peu plus long, nous allons essayer d'analyser la situation politique en France, particulièrement à gauche. À 4 mois de l'élection présidentielle, il y a 7 candidats de gauche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les sondages ne montrent aucune dynamique pour l'un ou l'autre de ces candidats. Pourquoi la gauche n'a-t-elle pas réussi à s'entendre sur un candidat commun comme la droite a pu le faire en choisissant Valérie Pécresse?
Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'une part deux grandes raisons principales, selon moi. Il y a une raison de fond, une cause de fond, qui est le bilan de la gauche au pouvoir au cours du quinquennat Hollande. Et ce qui a profondément marqué, disons, une fracture au sein de la gauche. Alors, c'est cette gauche et puis l'autre qui est très critique, sont-elles irréconciliables, comme l'avait prétendu Manuel Valls? Je ne crois pas, mais enfin, il y a en effet une très grande méfiance à l'égard de la gauche social-démocrate, disons. Et ça, c'est vraiment le bilan, disons, du quinquennat Hollande, Hollande héros, et surtout Valls, d'ailleurs, à la fin du quinquennat, pèse lourdement comme vraiment un fardeau sur la gauche, et c'est, je pense, le principal ferment de division. L'autre ferment de division, c'est probablement l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qui a eu des cartes en main après la magnifique campagne qu'il a réalisée en 2017 et qui pouvait se poser au rassembleur, et qui a choisi vraiment une stratégie d'hégémonie. Et là, on a effectivement quelqu'un qui est un peu irascible, disons, dans ce... Alors, il a ses raisons, justement les raisons que j'ai évoquées plus haut, mais peut-être était-il en position, justement, de tendre la main et derrière lui, disons, de réaliser un rassemblement. Ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, il y a cet éclatement, ce morcellement. Il y a d'autres raisons. Enfin, ce sont les raisons principales, disons, à mon avis, les deux principales raisons de l'éclatement de la gauche dans ce scrutin. Et du coup, les thématiques qui dominent sur les thématiques de droite et même d'extrême droite, sécuritaire, voire raciste. Mais il faut aussi dire que ces thématiques, elles ont été largement préparées. Et là, je reviens encore au quinquennat Hollande. À la fin du quinquennat Hollande, on a connu, disons, l'affaire de la déchéance de nationalité, les mesures sécuritaires, le durcissement voire le détournement du concept de laïcité. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, cette droitisation thématique qui domine aujourd'hui l'espace public est né au cœur même de la gauche social-démocrate. Donc il était très difficile d'opérer une réconciliation, et il était aussi très difficile de contester les thèmes qui dominent aujourd'hui, dans la mesure même où ils ont d'abord été esquissés par une partie de la gauche.
Alors Yannick Jadot a obtenu l'investiture écologiste après une primaire qui a été très médiatisée, une primaire qui a permis aux Français de faire connaissance avec Sandrine Rousseau, plus à gauche que lui, plus radicale aussi. Comment expliquez-vous que Yannick Jadot plafonne à 8 ou 10% d'intention de vote dans les sondages, alors que jamais les Français n'ont été aussi conscients et sensibles à la cause du changement climatique?
Alors, être sensible à la cause du changement climatique, c'est une chose. Y voir là, disons, un impératif immédiat, c'est malheureusement autre chose. Et on voit très bien que des thématiques, alors celles que j'ai évoquées à l'instant, sécuritaires, sur l'immigration, etc., qui ne viennent pas d'ailleurs en premier dans les sondages, mais enfin qui sont quand même très 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 hauts dans ces sondages, et puis surtout des thématiques qui apparaissent d'urgence, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, des questions sociales. C'est l'éternelle question de la fin du mois et de la fin du monde. Malheureusement, les écologistes, pour l'instant, n'ont pas encore réussi à imposer la question écologique tout à fait en tête des préoccupations, sans doute parce qu'ils n'ont pas réussi à combiner justement la question sociale et la question écologique, c'est-à-dire à rassurer pleinement, disons, des populations qui craignent que la thématique écologique, disons, leur coûte en termes de pouvoir d'achat et en termes même de confort de vie, de déplacement. C'est l'affaire des gilets jaunes, par exemple, qui s'est dressée finalement contre une mesure qui était de nature écologique, parce que, tout simplement, les services publics défaillants, les transports défaillants, renvoient les gens à des solutions de transport individuel qui sont incompatibles avec l'écologie. Donc il y a à la fois probablement un manque encore dans le discours des écologistes, et puis aussi une politique qui n'est pas la leur, mais qui est celle des gouvernements qui se sont succédés et qui ont plutôt coûté en termes de services publics et de pouvoir d'achat et des qualités sociales, et fait craindre à beaucoup de gens des classes moyennes et des classes inférieures, populaires, d'avoir à payer, disons, le prix d'une transition écologique.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de Jean-Luc Mélenchon dans cette désunion. Jean-Luc Mélenchon est un des candidats de gauche qui obtiendrait le meilleur score, mais les intentions de vote n'ont rien à voir avec sa candidature de 2017, où il était envisageable de le voir accéder au second tour. On peut dire que la France insoumise a mené une opposition très active pendant tout le quinquennat. Jean-Luc Mélenchon se présente aussi avec un programme construit, et pourtant, les électeurs de 2017 ne sont plus au rendez-vous. C'est uniquement à cause du caractère irascible de Jean-Luc Mélenchon ?
Alors, je pense que ça joue. Je sais qu'à gauche, on nie beaucoup les facteurs personnels, mais je pense qu'il a quand même pas mal abîmé son image. C'est un personnage de grand talent, hein. Pas seulement oratoire, mais de culture. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a une surface, je dirais, qui devrait ou aurait dû, je ne sais pas quel temps employé, lui permettre de rassembler la gauche derrière lui. Et on a souvenir de l'épisode de la perquisition, d'ailleurs abusive, hein, dans les locaux de la France Insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon lui-même, hein, La République c'est moi, hein, qui lui a coûté, je crois, beaucoup en termes d'image. Mais il y a plus grave que ça, parce que moi je suis tout à fait, disons, prêt à excuser des moments d'énervement comme celui-ci. Mais en revanche, il y a eu la question de la Syrie, il y a eu un discours qui le font apparaître. Et encore une fois, c'est plus lui que le mouvement dans sa totalité, comme très passéiste, c'est-à-dire avec une vision est-ouest très dessinée et insurmontable. On voit bien des sympathies pour Poutine, pour la Chine, pour Maduro au Venezuela, un anti-américanisme qui en partie est justifié, mais qui ne peut pas être non plus essentialisé, comme c'est le cas souvent dans ce discours. Et je pense que ces choses-là qui ne sont pas au premier plan, disons, dans la critique que l'on fait de Mélenchon, parce que les questions internationales, hélas, ne sont pas très présentes dans la campagne présidentielle ou la pré-campagne présidentielle, mais je pense que inconsciemment, ça a joué quand même. Et puis aussi, ces hésitations sur la question, par exemple, du Covid, et avec des choses, des atermoiements, des marques de sympathie pour le professeur Raoult, et puis également des hésitations sur la question du vaccin, auquel il a remédié progressivement, mais ça a été lent, et on a le sentiment de vouloir d'un mouvement un peu attrape-tout. Et en même temps, on lui fait payer des choses que moi, je suis tout à fait enclin non seulement à excuser, mais je dirais même à louer, c'est son discours sur la laïcité qui est en revanche très courageux et qui rompt avec ce dévoiement de la laïcité, je dirais islamophobe, qui est celui d'Emmanuel Valls par exemple. Donc il y a des choses contradictoires dans la France insoumise, et il n'a pas réussi, disons, à convaincre des gens, disons, d'anciens électeurs de la social-démocratie, et surtout à retrouver un électorat populaire qui est largement abstentionnistes, mais c'est encore son pari. Et puis la campagne électorale n'est pas terminée. Et son talent peut faire qu'il remonte la pente, et puis des conditions objectives qui peuvent l'aider, telles que l'abaissement du seuil d'accès au deuxième tour, par exemple, avec paradoxalement la présence de Zemmour.
Alors, il y a 5 ans, Benoît Hamon avait fait un score de 6%. On n'imaginait pas que le Parti Socialiste puisse obtenir un score plus bas encore. Et pourtant, Anne Hidalgo oscille aujourd'hui entre 3 et 5% d'intention de vote. Pourtant, en termes d'élus, le PS est devant les autres partis de gauche, notamment à l'Assemblée nationale. On fait payer à Anne Hidalgo le mauvais quinquennat de François Hollande, selon vous ?
Je crois que oui, c'est-à-dire qu'elle est dans une position qui est intenable. Elle ne peut pas revendiquer le bilan de ce quinquennat parce que ça lui coûterait plus cher encore si c'est possible. Mais elle ne rompt pas non plus avec, elle ne peut pas rompre avec parce que c'est l'appareil du parti, c'est des élus régionaux. Et donc elle est dans une situation intermédiaire dont elle ne peut pas se défaire. Et je pense que c'est en effet ça le principal. Et puis, je ne sais pas, pour l'instant, sa personnalité, comme on dit, n'imprime pas. Alors, je ne sais pas ce que... je ne suis pas toujours partisan de cette formule, mais c'est vrai qu'elle a du mal à se faire entendre. Mais je pense que ceci explique cela. C'est-à-dire qu'elle a du mal à se faire entendre parce qu'elle n'a pas un discours tranché de rupture avec ce qui s'est fait et de critique résolue, claire, de ce qui s'est fait pendant le quinquennat précédent.
Denis Sieffert, la vraie nouveauté de cette élection, me semble-t-il, à gauche, est la candidature de Fabien Roussel, premier candidat communiste depuis 2007. Pourquoi les communistes reviennent-ils dans cette élection majeure de la Ve République ?
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'après la présidentielle, il y a les législatives, et le Parti communiste a tout intérêt à être en visibilité avant les législatives et ne pas se fondre, comme ça a été le cas en 2017, dans la candidature Mélenchon. Donc ça, je crois que c'est quand même très présent à l'esprit des dirigeants communistes. Il y a un patriotisme de parti qui s'est réveillé après la candidature de 2017. Et puis, je suis désolé d'y revenir, mais il y a eu des mots très violents entre les dirigeants du PC et Mélenchon. Et malheureusement, il est difficile encore de passer quand on dit aux dirigeants du PC qu'ils sont la mort et le néant. C'est sûr qu'après, quand on tend la main, on peut pas s'étonner qu'il y ait des rancœurs et des ressentiments. Donc tout ça a joué. Et puis c'est pas tout à fait le même contenu programmatique. Mais ça, malgré tout, je pense que les histoires de contenu programmatique devrait être surmontable. N'oublions pas que le PC et le PS, le PC et la SFIO en 36, avec des programmes quand même très différents, des identités politiques très différentes. On était 16 ans seulement après la grande rupture du Congrès de Tours, ont réussi à s'allier. C'est-à-dire que la question de l'unité n'est pas seulement une question programmatique, c'est aussi une question de nécessité par rapport à une adversité. Et quand on voit que l'adversité, c'est Le Pen, Zemmour, et même une droite qui risque d'être très dure en termes de réformes antisociales, on peut considérer que ça vaut le coup de passer par-dessus un certain nombre de différences, de divergences programmatiques. Mais enfin, elles existent sur le nucléaire, elles existent sur la chasse, sur même la question sécuritaire. Et donc, le PC a voulu affirmer une identité propre qui n'est pas tout à fait celle de la France insoumise.
Dernière arrivée dans le jeu politique, Christiane Taubira, qui envisage d'être une candidate unitaire à gauche. Pour l'instant, les principaux candidats de gauche n'ont pas l'intention de se retirer au profit de l'ancienne ministre de la Justice. Est-ce qu'une candidature de Christiane Taubira pourrait rassembler les électeurs de gauche ?
Mais je ne le crois plus. C'est-à-dire que j'aurais pu le croire tout à fait beaucoup plus tôt, disons, dans cette campagne. Mais aujourd'hui, tout le monde est ancré dans sa position. J'ai écrit dans un récent éditorial qu'on ne fait pas boire un candidat qui n'a pas soif. Et ça s'applique aussi bien à Mélenchon qu'à Jadot. Ce qui est difficile, c'est qu'elle s'adresse davantage à des candidats qui sont en grande difficulté dans les sondages, c'est-à-dire Hidalgo, Montebourg, voire Roussel. mais elle ne peut pas faire sans les deux candidats qui, malgré tout, et en dépit d'un paysage dévasté, se tiennent le mieux dans les sondages et qui, eux, n'ont aucune raison de céder à la demande de Taubira. Il faut dire quand même que cette demande de Taubira s'inscrit aussi dans une initiative qui est très valeureuse, qui est celle de ce collectif pour une primaire populaire avec 300 000 signatures et qui est vraiment la base, disons, d'un peuple de gauche, comme on disait autrefois. Malheureusement, je pense que l'affaire maintenant est très très mal partie parce que finalement, c'est pas le nombre de signataires qui compte. C'est un très beau score, mais c'est la volonté des deux ou trois personnages qui ont le pouvoir de se désister ou pas. Et ceux-là, maintenant, sont trop avancés dans la campagne pour reculer.
Les électeurs de François Hollande, aujourd'hui, ils votent pour Emmanuel Macron ?
Ben, une partie d'entre eux, en tout cas, ça a été le cas en 2017, assez clairement. Alors, je ne sais pas comment ils vont réagir, parce qu'encore une fois, le vote, c'est à la fois un vote d'adhésion, mais aussi un vote, disons, de défense, d'autodéfense, je dirais, sociale. Et puis même, je dirais, tout simplement, du point de vue des libertés. La question qui se pose, s'est posée en 2017, va se reposer de façon peut-être un peu différente, atténuée sans doute, c'est-à-dire faire barrage, hein, ces fameux mots à Le Pen et à Zemmour, et puis peut-être aussi à Pécresse, parce qu'on ne sait pas, parce que il semblerait qu'on aille plutôt vers un deuxième tour Pécresse-Macron, qui risque là du coup le plus extrêmement serré, et le programme de Pécresse méritera d'être examiné socialement, parce que ça risque d'être Macron plus, hein, c'est-à-dire plutôt Fillon que Macron. Donc comment les électeurs de gauche, je parle du deuxième tour, du coup, vont se positionner. Le problème, c'est qu'au premier tour, beaucoup de une grande part de cet électorat risque simplement de pas trouver, disons, son champion et s'abstenir. Et ça reste, disons, le grand échec de la gauche, c'est-à-dire l'abandon ou le quasi-abandon des classes populaires. Ça vient de loin, ça vient même de Mitterrand avec la question européenne et puis beaucoup d'autres tournants qui n'ont pas été avoués mais qui ont abouti à renoncer, parfois au profit de mesures sociétales qui étaient tout à fait sympathiques et positives, mais de renoncer, disons, à la question sociale.
Merci Denis Siffer. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à Politis et à quelques jours du Nouvel An, je vous souhaite une bonne année 2022.
Et bien moi de même, c'est qu'à Radio Orient en général. Voilà.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.